Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Ce qui m'a rendu le plus heureux finalement, c'est que j'ai toujours cru en moi. Que parfois j'ai eu des échecs, que parfois j'ai eu des refus, que parfois je prenais pas la bonne direction, j'étais pas bon dans ce que je voulais faire, mais que j'ai cru en moi. Je me suis dit, vas-y, on sait jamais.
Il y a des événements, des ruptures, des rencontres, des lectures, des nouvelles qui nous rappellent la fragilité de la vie. Pour Michel Simès, ce rappel a été provoqué par un cancer. Boulimique de l'existence, amateur de bonne bouffe, de grand vin, de rire et de mille autres choses, il est hyperactif depuis toujours et encore plus après cette épreuve. Tu l'as sûrement vu passer à la télé, entendu à la radio ou croisé dans un kiosque à journaux, Michel Simès ne s'interdit aucun rêve. Il entend vivre fort, ne jamais cesser d'apprendre tant que son cerveau fonctionne. Hyperactif dans l'âme, il prend aujourd'hui le temps du recul et la mesure du temps qui passe. Surtout, il réalise l'importance de prendre le temps pour le retenir. Alors il ralentit, et on a ralenti ensemble dans ce podcast. À 65 ans, Michel Simès a eu 1000 vies. Et j'ai eu envie de lui demander, qu'est-ce que l'on a tendance à trop oublier dans la vie ? Dans cet épisode, on parle de syndrome de l'imposteur, de célébrité et d'estime de soi. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de prendre le temps. Bonjour Michel Simès.
Bonjour.
Merci de m'accueillir dans tes bureaux à Paris. Je suis très honorée d'être là.
T'as vu, c'est le bordel. Hein.
C'est le bordel, mais un bordel de livres, donc c'est un beau bordel.
Ouais, c'est parce qu'on vient d'emménager et que voilà, tous les bouquins que j'avais avant. Puis j'ai mon petit cabinet de curiosité de l'autre côté, là, à ta gauche,
ouais.
Avec tout ce qui a compté dans ma vie.
Plein de petits objets précieux. Ouais. Je suis très honorée de pouvoir voir ça. Merci de m'accueillir dans ce petit nid. Tu as eu 1000 vies dans ta vie. Mais à ce jour, tu es médecin, animateur de télé et de radio, et tu diriges notamment le comité éditorial du magazine Dr. Good. Tu as grandi à Paris, et tu dis avoir été frustré par ce besoin d'espace et de nature qui n'était pas, ou trop peu, assouvi. Qu'est-ce que tu retiens de cette enfance ?
Je retiens une enfance très heureuse, où j'ai manqué de rien. Mon père travaillait dans la confection, ma mère travaillait pas, on était dans un petit appart à Paris dans le 18e, à Châteaurouge, et franchement j'ai manqué de rien à part de la nature. Et je sais que ce que je retiens, c'est que j'allais pas à l'école en courant. Et puis je sais pas pourquoi, mais j'étais effectivement, j'adorais la verdure, la nature, et en plein Paris, dans le 18e arrondissement, il y en a pas beaucoup, il y a quelques squares. Et donc, mon grand bonheur, c'était quand j'allais passer un dimanche au parc de Saint-Cloud. Pour moi, c'était le bonheur absolu. J'ai été frustré. C'est marrant parce que c'est un mot, la frustration, qui revient très, très souvent dans ma vie. Et j'en ai pris conscience finalement que très récemment. Mais j'étais frustré de ne pas avoir suffisamment de verdure autour de moi.
Qu'est-ce qui t'en a fait prendre conscience récemment ?
De la frustration ?
Oui.
Il y a un moment dans la vie, quand tu me dis que j'ai 1000 vies, alors moi j'ai pas conscience d'avoir 1000 vies, j'ai conscience d'avoir de faire beaucoup de choses parce que j'en ai besoin et que je m'ennuie, mais j'ai récemment, il y a quelques années, on m'a dit que j'étais porteur de ce TDAH, les troubles de l'attention et d'hyperactivité,
et HP
hétérogène et au potentiel, mais j'ai compris finalement pourquoi. Enfin, j'ai mis un mot sur la raison pour laquelle je courais avec ces tests, mais aussi j'ai mis le mot de frustration parce que je me rends compte finalement, en faisant un petit flashback sur ma vie, qu'à chaque fois que j'ai entamé quelque chose, c'est parce que j'ai un culot monstre.
Oui.
Et j'ai un culot monstre parce que je veux bien qu'on me dise non, mais je veux pas ne pas avoir demandé. Voilà. D'où le titre de mon bouquin, Rien n'est impossible. Oui. Parce que pour moi, non pas, on m'a dit pourquoi t'as pas appelé ton bouquin Tout est possible. Parce que dans le tout est possible, il n'y a pas la notion d'échec. Dans rien n'est impossible, pour moi, parce que la fin de la phrase c'est, de Pythagore, c'est même l'invraisemblable, c'est vas-y, essaye, ne te dis pas que c'est impossible, tu te prendras peut-être un mur, mais t'auras essayé. Et la frustration, en fait, que moi je ressens depuis finalement très longtemps, c'est de ne pas essayer. J'ai enfin compris pourquoi je courais après plein de trucs, c'est que la peur de l'ennui, certes, mais je ne veux pas me dire, mais espèce de con, pourquoi t'y es pas allé ?
Donc ton moteur, c'est ce besoin de bougeotte ? T'aimes les défis, la nouveauté ? Tu passes un jour le brevet de pilote d'avion, le lendemain, tu passes celui du bateau ? Être à ce point boulimique du fer, même si aujourd'hui tu l'expliques avec TDAH, HPI et ces petites étiquettes qu'on a pu te mettre, est-ce que c'est une façon aussi d'éviter un face-à-face avec toi-même ?
Alors docteur, est-ce que c'est un... Je ne sais pas. Alors je ne me suis pas analysé à ce point-là. Le face-à-face avec moi-même, peut-être, mais alors ce serait face-à-face avec l'imposteur que je crois être. Parce que le syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens connaissent,
oui.
Qui est de se dire « mais est-ce que je suis bien à ma place ? Pourquoi on me fait confiance alors que je ne le mérite pas ?»
Tu l'as beaucoup celui-là.
Moi je l'ai beaucoup. Oui. Et c'est... Là aussi je l'ai compris assez récemment, mais ça pour l'avoir je l'ai. Peut-être que c'est pour en revenir à ta question, que je n'ai pas envie de me retrouver face à quelqu'un qui me renverrait l'image d'un imposteur. Aujourd'hui, je me soigne. Hein, tout seul. Je vais pas voir un psy, mais
ouais.
Je me dis que bon, arrête de te poser des questions. Je suis plutôt près de l'arrivée que du départ. Ça a pas mal marché pour moi. Les gens me font confiance. Te demande pas pourquoi. Voilà. Fais ce qu'on te demande de faire. Fais ce que les gens attendent de toi et arrête de te demander pourquoi les gens t'aiment bien. Parce qu'au bout d'un moment, c'est très fatigant.
Finalement. Ouais, bien sûr. Et à 20 ans, comment tu imaginais ta vie des grands, ta vie future ? Comment tu te projetais dans cette vie-là ?
Ma vie, c'était médecin.
Ouais.
C'était la médecine. Je l'envisageais comme chirurgien, parce que j'avais déjà cette envie d'être chirurgien. Quand on fait médecine, il y a un moment clé et charnière qui est la fin de quand tu réussis ton concours. Dès que tu passes en deuxième année, là, tu sais que tu es sur des rails. Après, il y a beaucoup de travail, parce qu'il faut passer l'internat, il faut passer...
Et tu as réussi ta première année de médecine du premier coup.
Ouais.
Alors même que tu avais redoublé ta sixième et raté ton bac.
Non, mais moi, je suis à la fois une exception et en même temps un formidable exemple pour tous les jeunes qui nous écoutent.
Bien sûr.
C'est pour ça que j'ai écrit ça dans mon livre.
Et c'est pour ça que je t'interview.
C'est de dire, on peut rater un examen. Moi, j'ai redoublé ma sixième et j'ai redoublé ma terminale. Alors, c'était à une époque où le bac, il y avait 60% de réussite. Donc, on n'est pas à 95% comme aujourd'hui.
Oui.
Mais j'ai raté mon bac. Et le fait de rater son bac m'a effondré pour 25 000 raisons, dont une raison familiale qui fait que, après ce que ma famille avait subi pendant la guerre, j'ai été le premier semestre à passer son bac et donc il y avait beaucoup d'attentes autour de moi et que je n'avais pas réussi à offrir cette joie à mes parents. Aujourd'hui, je me dis, et pour les jeunes qui nous écoutent, rater un examen, c'est pas grave. Rater un concours, c'est pas grave. Ça peut être démoralisant parce qu'en médecine, en plus, on peut plus redoubler aujourd'hui, mais c'est pas la fin du monde et vous n'êtes pas un moins que rien ou un raté parce que vous avez foiré un examen. Voilà, on peut. Moi, par exemple, j'étais très traqueur. Je perdais tous mes moyens devant une feuille, surtout quand il y avait un temps imparti. Et c'est marrant parce que à chaque fois que j'ai passé des examens et qu'il y avait un temps donné pour passer ces examens, je paniquais et je ne comprenais pas pourquoi. Alors après, une fois que c'était parti, mais je paniquais. Et l'an dernier, quand j'ai passé mes tests HP au potentiel, il y a certains tests qui demandent du temps, qui sont chronométrés, et d'autres qui ne le sont pas.
Oui.
J'ai été très mauvais sur le chronométré parce que je savais que j'avais un temps imparti et que ça me pénalisait.
Ça générait une pression.
Et que ça me pénalisait et je n'étais pas bon. Et donc, je comprends finalement aujourd'hui, à mon âge, pourquoi j'avais des problèmes pour les examens. Mais le message qui est important, c'est allez-y, relevez-vous. relevez-vous, foncez, allez-y, vous avez raté. Alors si vous avez rien foutu, que vous êtes un glandeau et que vous êtes parfait pour les études, passez à autre chose. Mais si vous avez bossé comme un fou et que vous avez raté, eh ben c'est comme ça. Et vous repassez, vous vous relevez, vous repassez l'examen et c'est pas la fin du monde.
Et à t'écouter, j'ai l'impression que tout ce travail quand même personnel, notamment le fait que tu aies mis le doigt sur cette frustration que tu as toujours eu en toi, c'est très récent. Aujourd'hui, tu as 65 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire finalement aux jeunes qui aujourd'hui se lancent dans la vie active, qui ont autour de 20 ans et qui se posent des questions ?
Il y a deux façons de répondre. La première, c'est mon cas personnel. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui serait passé si, quand je rate mon bac et que je dis que je veux faire médecine, on me dit, t'es TDAH, t'as des troubles de l'attention, laisse tomber. Je pense que je serais pas allé faire médecine. Mmh. Je serais passé à côté de ma carrière.
Donc ne pas savoir, parfois c'est bien.
Parfois c'est bien. En même temps, le savoir, si vous êtes TDAH, par exemple si t'es TDAH, si t'as un enfant TDAH ou qui manifestement a des problèmes pour se concentrer, etc., c'est pas mal de le savoir parce qu'on va pouvoir adapter la scolarité à l'enfant et que peut-être que l'école classique n'est pas faite pour lui, qu'il faut l'orienter vers d'autres structures. Chez un adulte qui a beaucoup d'échecs, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui fatigue son entourage et qui se pose des questions, oui, c'est intéressant de passer les tests. Mais tu peux passer les tests de TDAH, tu peux passer les tests pour savoir si tu es au potentiel. Il faut juste être conscient des conséquences. Par exemple, tu vas dire que on te répète toute la journée que tu es au potentiel. Bon, tu es très intelligent, tu es formidable, tu vas à une vitesse folle, etc. Tu finis par te persuader que tu l'es, tu vas passer les tests, on dit que tu ne l'es pas. Bon, c'est une déception. Ça peut être une déception. Et ça peut enfoncer un petit peu. En même temps, dire qu'on est HP ou qu'on est TDAH, après des tests, il y a un danger aussi, c'est de se réfugier derrière ça.
Bien sûr.
Et de se dire, et c'est aux autres de s'adapter. Moi, je suis comme ça.
Moi, j'ai cette étiquette, je me cache derrière.
Voilà, je me cache derrière et puis arrêtez de m'emmerder. Je suis TDAH, donc vous comprenez pourquoi j'ai des troubles de l'attention, pourquoi je saute d'une table à l'autre et puis je ne vais pas changer parce que c'est dans moi. Non, si, il faut s'adapter à la société, il faut s'adapter à l'entourage et surtout ne pas se réfugier derrière l'étiquette qu'on vous donne. À la limite, vous la gardez pour vous et vous répondez aux questions que vous vous posez sur votre façon de vivre. Mais le danger, il est là. C'est de rentrer chez soi en disant « Hey !» Et on monte les tests à sa famille en disant « Voilà, vous m'emmerdez depuis des années parce que... » Donc, adaptez-vous.
Vous avez la preuve.
Voilà.
Tu oses faire plein de choses. Tu nous le disais tout à l'heure, cette envie de multiplier les expériences, elle est vraiment intrinsèque à qui tu es. Pourtant, tu dis « Il m'est arrivé de ne pas aller au bout de ce que j'entreprends. » La peur, la paresse, les pressions, le syndrome de l'imposteur. À quoi n'es-tu pas allé au bout ?
Là, ça fait partie du TDAH, c'est-à-dire que j'entame beaucoup de choses, très excité, et puis au bout d'un moment, ce que j'ai entrepris m'ennuie, et je ne vais pas au bout. Je peux commencer un truc, il me reste un coup de peinture à donner, je procrastine. Parce que la procrastination, c'est aussi très fréquent chez les TDAH. Dès que quelque chose m'ennuie, j'ai tendance soit à repousser, soit à commencer et à pas terminer. Donc, il y a plein de petits trucs dans la journée, mais ça me fatigue moi, ça m'énerve.
Ouais.
Alors parfois, je me donne un coup de pied au cul en me disant « Attends, il reste une couche à donner, tu vas le faire maintenant.
Ouais. »
Mais je laisse des trucs en plan régulièrement. Une autre caractéristique, c'est que je suis très bon dans l'urgence. Par exemple, je sais depuis 2 mois que j'ai un discours à faire parce que je suis administrateur de Paris 2024 et ambassadeur santé. J'ai un discours à faire devant le conseil d'administration. C'est quelque chose d'important. Il y a plein de gens très compétents, les ministres, etc. Je pourrais me dire, voilà, il va falloir que tu travailles pour pas passer à côté. Et ben, c'est dans 2 jours. J'ai seulement commencé à le travailler hier. et je sais que quand je vais m'y mettre, je vais le terminer parce que j'aurai pas le choix. et qu'il faudra que je termine. Et je pense qu'il sera très bon, mon discours, alors que si j'avais commencé il y a 2 mois, il aurait été un peu tiède.
Donc finalement, la pression du temps, ça peut aussi avoir ses effets positifs.
Oui, oui, bah, ça, pour chez moi, alors c'est stressant.
Oui.
Mais par exemple, quand je tourne aujourd'hui, quand je tourne des émissions, y compris avec Adriana, pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ou quelles que soient les émissions, en général, je m'y mets la veille. Je commence à travailler la veille alors qu'on m'a filé le dossier depuis un moment.
Et la peur, elle te paralyse parfois ?
Je commence à aller mieux. Je suis un grand traqueur. Dès que je sors de ma zone de confort, j'ai le trac. Par exemple, mes émissions que je présente régulièrement, aucun problème. Quand j'ai été, je me souviens, des premières invitations à Nulle Part Ailleurs ou au Grand Journal, etc. J'arrivais, je tremblais, quoi.
Et le magazine de la santé aussi ?
Non, parce que ça, c'est mon émission.
Ouais.
C'est mon émission, je connais tout le monde, je suis dans un environnement qui est plutôt rassurant pour moi.
Okay.
Et puis, j'ai l'habitude. Mais dès que je suis invité, quand j'étais invité ailleurs, j'étais toujours traqueur, ce qui fait que je travaille comme un dingue parce que si c'est un sujet médical, par exemple, on ne peut pas me poser une question à laquelle je ne sais pas répondre. Donc, je travaille comme un dingue sur le sujet, comme ça j'arrive plus détendu en me disant je peux pas me ramasser, parce que j'ai pas le droit avec l'image que j'ai auprès du public de me ramasser sur un thème médical. Donc je travaille comme un malade et j'en sais 100 fois trop, mais au moins je suis plus tranquille. Mais la peur, oui, la peur, j'ai par exemple, je peux te donner un scoop si tu veux.
Allons-y.
Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre avec des copains.
Ouais.
Ils me poussent tous à jouer un des rôles sur scène. J'ai pas donné ma réponse encore parce que le simple fait de me voir sur une scène de théâtre, je suis tétanisé. Et alors que je fais de la fiction, je joue dans des téléfilms et que sur le jeu, je suis pas très inquiet, mais ça me tétanise. Alors que là, il va y avoir une opposition entre la peur, le trac. Et la lutte contre la frustration, parce que si j'y vais pas, je vais être terriblement frustré, parce que c'est un bonheur, c'est un truc absolument génial d'être sur scène, et je serai frustré, et en même temps, de l'autre côté, j'ai mon autre hémisphère qui me dit, est-ce que t'as envie de te faire mal ? Dilemme. Et donc, je ne sais pas.
Est-ce que la notoriété, elle accentue cette pression que tu te mets ? Parce que tu sais que tu vas être entendu, que tu vas être vu, que les gens te reconnaissent, et donc, t'as peut-être encore moins le droit à l'échec.
Oui, oui, c'est sûr que j'ai pas le droit à l'échec. On l'a vu avec le Covid, dès que... On a l'impression que c'est moi qui est à l'origine de l'épidémie pour certains. Cette notoriété m'a mis... Oui, bien sûr que t'as une pression quand on te dit que t'es l'animateur préféré des Français, quand t'es le médecin...
Tu peux pas décevoir.
Voilà, tu peux pas décevoir. Puis c'est surtout que j'ai une vraie mission qui est de faire passer la parole de santé publique sans dire de conneries quand même.
Bien sûr.
Mais en fait, cette notoriété qui est allée croissante, le facteur déclenchant, ça a été le classement du JDD.
Oui.
C'est le classement des Français préférés des Français. Donc, il y a toutes les catégories. Les acteurs, les chanteurs, tout ce que, les sportifs, etc. Je me suis retrouvé dans, je sais pas, 5e ou 6e, devant Aznavour, Belmondo. Franchement, quand j'ai vu ça, je suis tombé par terre, quoi. Et là, en dehors du fait que ça m'a fait vraiment vaciller parce que le syndrome de l'imposteur, je l'ai pris en pleine gueule, mais c'est surtout qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, vous me faites confiance? Et ben maintenant, je vais m'en servir pour vous faire passer des messages de santé publique autour de la vaccination, autour de sport, autour de plein de choses. Au lieu de penser à moi, à ma carrière, à tout ça, et ben j'ai basculé dans... alors, je pensais à ma carrière, mais tout en donnant des vrais messages de santé avant. Et là, je me suis dit, bon, j'ai une mission, là.
Oui, c'est une mission, c'est vraiment ça.
La mission, c'est... Les gens me font confiance, donc je dois leur dire ce qui est bon pour la santé.
Ok. De la médecine à la scène médiatique, tu dis que les choses se sont faites naturellement, comme un enchaînement miraculeux qui ne laisse pas au doute le loisir de s'installer, car rétrospectivement, tu t'aperçois qu'on est souvent venu te chercher. La chance, elle nous tombe dessus ou elle se provoque ?
On provoque le fait qu'elle nous tombe dessus. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Moi, cette chance, je l'ai provoquée par un culot incroyable et par j'étais persuadé que rien n'était impossible et qu'il fallait le tenter. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que la chance, c'est du travail, du culot, c'est oser et c'est aussi arriver au bon moment. Moi, quand j'ai commencé la radio à France Info, je suis arrivé à un moment où le patron de France Info, Pascal Delannoy, voulait changer la chroniqueuse. Si j'arrive une semaine plus tôt ou une semaine plus tard, je fais pas France Info. Et France Info a tout déclenché. Donc, le bon endroit au bon moment, ça c'est de la chance. Mais en même temps, si j'étais arrivé avec une proposition qui n'était pas bonne... Et là, c'est le travail.
Bien sûr.
Ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est une conjonction de planètes qui doivent s'aligner. Toute ma vie, effectivement, on est venu me chercher. Mais au début, j'ai quand même provoqué. Quand je fais la télé, Jean-Marie Cavada est nommé patron de la 5e à l'époque. J'ai beaucoup d'admiration pour Cavada. Je ne le connaissais pas. Moi, j'appelle son assistante, je lui dis « j'aimerais bien le voir ». Et je suis allé le voir au culot. Jean-Marie Cavada, les jeunes ne le connaissent pas aujourd'hui, mais c'était une des grandes figures de la télé. Un type qui présentait une émission culte, La Marche du Siècle. Et Cavada m'a reçu.
Sans culot, tu n'en aurais pas fait autant.
Mais sans culot, Cavada ne me reçoit pas. Et Cavada, il est nommé peu de temps après m'avoir reçu, il est nommé président de la 5e. Il veut un médecin. Il pense à qui? Il pense au mec qui est venu le voir. Donc... j'ai beaucoup de chance avec ça parce que j'arrive au bon moment et j'arrive à séduire probablement par le travail que je fournis.
Mais qu'est-ce qui fait que ce culot est si naturel pour toi? Est-ce que c'est le fait que tu te poses peut-être moins de questions, que tu te projettes moins?
Je m'en pose aucune. Je me pose aucune question. Pour moi, personne n'est inaccessible. Personne. Et c'est pour ça que parfois je titille un peu les jeunes ou les gens qui viennent me voir et qui me disent on veut pas vous embêter, vous êtes très connus et tout. Je les engueule parce que je leur dis
mais regarde,
touchez-moi, j'ai de la peau, hein. J'ai de la peau là.
Bien sûr.
Si je suis un mec normal, donc vous venez, vous avez envie de me voir, vous venez me voir et puis je vous fais une photo et puis un selfie et puis un mot, ce que vous voulez. Personne pour moi n'est inaccessible, y compris le président de la République. Et moi je peux envoyer demain un SMS à un président ou à n'importe qui. Ça ne me pose aucun problème, aucun.
Tu as souffert d'un cancer du rein découvert et traité à temps, en 2008. Qu'est-ce que l'après-cancer t'a appris?
C'est le cancer qui m'a appris surtout. le cancer m'a appris que l'après est bon, ouais. Quand on a la chance de guérir. Alors d'abord, j'en ai parlé dans le bouquin parce que je voudrais quand même que les gens comprennent qu'il faut se faire dépister, que si un cancer est pris à temps, on est guéri. Il y a 60% de guérison dans les cancers aujourd'hui en France. Mais à condition d'aller se faire dépister, d'avoir une tumeur petite, comme moi j'ai eu la chance d'avoir.
Donc d'y aller tôt,
de faire... c'est vrai que tes auditeurs sont peut-être jeunes, mais il faut qu'ils l'intègrent dès aujourd'hui et qu'un jour, il faudra aller faire tous les dépistages que la médecine permet de faire. Il y a moins de 50% des Français qui font les dépistages que la médecine propose aujourd'hui, ce qui est complètement dingue. Alors, moi, ce que l'après-cancer m'a appris... d'abord, j'ai vécu ce que mes patients à qui j'annonçais un cancer vivaient, ce moment de sidération. Et après le cancer... Vous allez vite à l'essentiel. Voilà. On va vite à l'essentiel. Ça s'est pas fait brutalement, mais progressivement, je commence à avoir une idée assez précise de la vie que j'ai envie d'avoir. Que j'arrête de courir après le boulot, que je consacre plus de temps à ma famille, que je prends soin plus de moi, et que j'ai une vie que je qualifierais d'un peu plus saine. Sans être chiante, parce que c'est le plus important. Voilà ce que m'a appris l'après-cancer. Alors, il y a beaucoup de cancers. On pourrait se dire que tout ce qui m'arrive, c'est durable. Je ne le vois pas comme ça, mais je me dis quand même que la vie est belle et qu'elle est trop belle pour se faire chier. Et que, voilà. Aujourd'hui, après le cancer, ça fait 14 ans quand même, je me fais de moins en moins chier dans ce que je fais. Je fais beaucoup plus de trucs qui m'amusent. Et aujourd'hui, le seul mot que j'ai en tête quand je dois bosser, c'est le mot plaisir. Si j'ai pas ce plaisir, je ne fais pas.
Pourquoi on attend souvent un accident pour se décaper du superflu dans
parce que c'est une course permanente. Enfin, quand t'as la chance, comme moi, d'avoir un peu de succès dans ce que tu fais et puis d'être... multitâche. C'est une course permanente.
Et comme qui nous aliène finalement.
Oui, et puis comme moi, je suis... j'ai... Alors, est-ce que c'est ça en imposteur ? J'en sais rien, mais j'ai très peur de dire non aux propositions parce que j'ai peur que les gens pensent pour qui il se prend.
Ah oui.
Voilà, donc toute ma vie, j'ai fait ça. Et, enfin, toute ma vie médiatique. Et donc, j'ai fini à un moment par... Je m'en suis rendu compte, hein, parce que j'ai frôlé un burn-out à un moment, parce que je disais non... Je disais oui, pardon, à tout le monde. Et tu peux pas dire oui à tout le monde. Donc, tu peux dire non gentiment, mais tu es obligé de refuser des choses. Sinon, je passerai mes journées à le faire. Et donc, maintenant, je sélectionne, je choisis les gens à qui j'ai envie de parler, les cibles auxquelles j'ai envie de m'adresser.
Merci pour ce temps accordé, du coup.
Mais, mais tu vois, ce qui m'a séduit dans ta proposition, alors que je te connaissais pas, c'est que d'abord, tu m'as dit ce que tu m'as écrit ce que tu faisais, tu m'as donné le nom des gens que tu avais interviewés, et puis moi, ça m'intéresse de parler à ta cible, aux gens qui t'écoutent, aux auditeurs, parce que ce sont des jeunes qui voilà, qui font la France de demain, qui ont besoin dès aujourd'hui d'avoir un certain nombre de données sur leur santé aujourd'hui pour bien préparer l'avenir. Et donc j'ai dit oui à ta demande d'interview. Alors que j'en ai refusé plein, parce que voilà, ton discours me séduisait, mais en même temps, j'ai malheureusement été obligé d'en refuser d'autres, parce que tes podcasts, il y en a beaucoup. Je vais encore en faire un la semaine prochaine, parce qu'on est sur une autre cible, mais t'es obligé de dire non, parce que sinon, à un moment, je te dis, j'ai frôlé le burn-out, j'ai eu tous les symptômes du burn-out, et heureusement, j'ai une copine psychologue, et quand je lui ai parlé, elle m'a dit, ouvre ton agenda devant moi, et là, tu barres tout pendant 15 jours. Tu barres. Et ce que j'ai fait...
C'était difficile à faire.
C'était... Non, parce que je sentais le danger.
D'accord.
Parce que j'avais... Elle m'avait fait prendre conscience de... que j'étais en train de basculer dans le burn-out, alors que je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais un symptôme qui trompait pas. C'était ce que j'appelais, moi, le crabe qui était à l'intérieur de moi. J'avais... Alors que je suis un mec calme, j'avais l'impression d'avoir un truc qui me bouffait de l'intérieur. Et là, c'était... Là, je basculais. Si je continuais, je basculais. Et donc, j'ai pris mon agenda. J'ai tout annulé pendant 15 jours. Et je n'ai plus jamais ni ressenti les symptômes, ni refait mon agenda comme ça pour le surcharger. Donc, j'ai compris.
Si le cancer t'a apporté un certain recul sur ta vie, l'écriture aussi. Donc, tu nous le disais, tu viens de publier « Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre » en octobre, là, début octobre, aux éditions Stock. Et c'est l'occasion pour toi de faire une mise au point entre le temps médiatique très rapide et le temps scientifique plus sérieux et raisonnable de la médecine que tu pratiques aussi. Tu prends le temps d'écrire. Quel recul sur ta propre vie l'écriture t'a apporté ?
D'abord, quand tu écris un livre sur toi, c'est incroyable le nombre de choses qui reviennent. T'as des trucs que t'avais oubliés.
C'est
et au fil, c'est une sorte d'analyse. Hein. Au fil des discussions, j'ai des trucs qui me sont revenus et qui sont revenus avec mon regard d'aujourd'hui et qui font que des choses qui étaient factuelles et qui paraissaient anodines dans ta vie sont, avec le recul, analysées différemment. D'abord avec les tests que j'ai passés qui m'ont éclairé sur ma personnalité, mais que tu revois avec l'expérience de ta vie d'aujourd'hui. Donc, le petit garçon que j'étais... Et c'est marrant parce que, alors, je sais pas si... comme tu as lu le livre, tu as vu qu'à un moment, j'ai eu un petit souci avec un prof de maths.
Oui.
en cours particulier.
Tu avais 12 ans, non ?
11 ans, ouais. J'avais 11 ans, j'étais en 6e et je prenais les cours particuliers de maths avec un prof, un jeune de 17 ans... qui a sorti son sexe pendant le cours. Je n'avais pas trop le rapport avec les équations, mais enfin bon. et alors, c'est marrant parce que c'est la mémoire traumatique, hein, oui. Pour un gamin de 11 ans.
Puisque tu n'en as pas parlé après.
J'en ai pas parlé après. Je ne l'ai pas oublié, mais j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à mes parents. Enfin, j'ai juste dit que je voulais arrêter les cours de maths. Et j'en ai parlé à mon père quand j'avais 18 ans. Par rapport à ta question sur ma façon de voir ma vie, aujourd'hui, quand je revois cette scène que je suis capable de décrire au détail près, je suis derrière ce petit garçon que j'étais. Et je vois la scène comme si j'étais spectateur de la scène, alors que j'étais assis à côté de lui. Et je suis derrière, je vois cette scène derrière. Et en fait, pendant longtemps, quand je repensais à ça, j'étais le petit garçon. J'étais dans la peau du petit garçon qui subissait ça. Et aujourd'hui, je suis derrière. Donc, ça illustre bien la façon que tu as de te souvenir des choses de ton enfance ou plus tard, avec l'âge. Aujourd'hui, j'ai un vrai... Si je dis que j'ai du recul, c'est dans les deux sens du terme. Oui. J'ai du recul moral, psychologique par rapport à ça, mais j'ai du recul physique, puisque je suis derrière le gamin, et que je... Enfin, le gamin que je suis, et que tu vois, j'arrive à en parler comme si c'était quelqu'un d'autre.
Comme si tu racontais une histoire qui n'était pas toi, finalement. Tu dis aussi, ce livre participe de la même démarche, aider celles et ceux qui, comme moi, voient en la vie l'opportunité qui nous est donnée d'accomplir ces choses qui nous rendent heureux. Quelles sont ces choses qui nous rendent heureux au quotidien ?
Ah, moi, j'ai... Le bonheur que j'ai, tu sais, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. Voilà. Ce qui me rend le plus heureux, c'est ça. Mais je suis conscient de la chance que j'ai. Je ne me lève jamais le matin en me disant... Ça m'emmerde de faire ce que je fais dans la journée. Et depuis toujours, c'est un luxe incroyable. C'est un luxe. Enfin, je vis pas dans le monde des bisounours. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais je crois que ce qui rend heureux, ce qui m'a rendu heureux moi, c'est d'aller au bout de mes rêves, au bout de mes envies, et de lutter contre cette frustration en me disant, vas-y, essaye. Alors, il faut pas croire que quand je dis ça, j'ai claqué des doigts et tout est tombé comme ça. Hein. Pour faire de la radio, et je l'explique dans le bouquin, j'ai galéré, j'ai proposé, on m'a jeté, on m'a refusé, et puis j'ai continué parce que je croyais en moi. Voilà. Et je crois que ce qui m'a rendu le plus heureux finalement, si on doit résumer un peu tout, c'est que j'ai toujours cru en moi. Que parfois j'ai eu des échecs, que parfois j'ai eu des refus, que parfois je prenais pas la bonne direction, que j'étais pas bon dans ce que je voulais faire, mais que j'ai cru en moi. Je me suis dit, vas-y, on sait jamais.
Comment on croit en soi ?
D'abord, il faut beaucoup de bienveillance autour de soi. Il faut avoir des gens qui, eux aussi, croient en toi. Des gens qui t'encouragent, pas des gens qui te disent arrête de nous emmerder avec tes projets, va pas dans cette direction. Mais ça, on ne choisit pas.
Parfois, on a des parents qui nous encouragent.
Non, on choisit pas. Bah, il faut les parents, tu peux pas changer. Mais il faut s'entourer de gens bienveillants. Il s'agit pas de s'entourer de gens des bénis oui qui te disent t'es formidable, t'es beau, t'es ah là là, mais comme t'es exceptionnel, etc. Mais juste des gens qui vont plutôt vous encourager plutôt que vous dire ne fais pas ça. Après, croire en soi, il faut bosser déjà pour croire en soi. L'estime de soi, elle est importante dans tous les domaines. Et je parle beaucoup de l'importance de l'activité physique et du sport pour la santé. Bon, la santé physique, la lutte contre les maladies, tout ce que tu veux. Mais quand tu fais du sport, et j'insiste beaucoup dessus aussi, quelqu'un qui n'est pas actif, qui fait pas de sport, qui bouge pas et qui va se mettre à marcher, qui va faire ses 6000 pas, qui va faire ses 30 minutes d'activité physique quotidienne, à la fin de la journée, il va se sentir plutôt bien.
Oui.
Parce qu'il va se dire « Ah, j'ai fait un effort. Je me suis un peu surpassé. » Et le lendemain, il va faire 7000 pas. Et puis ainsi de suite. Et son moral, son estime de soi, qui est essentielle, va aller mieux. Et bien, il y a plein de domaines dans la vie où il faut... faire attention à son estime de soi, parce que c'est elle qui donne la confiance. C'est elle qui fait que on peut aller au bout de ses rêves en se disant je suis pas plus con qu'un autre, j'ai des prédispositions dans tel ou tel domaine, et ben il faut que j'aille au bout de ça. On n'est pas tous égaux, on ne sait pas tous faire la même chose, on n'est pas experts tous pareils dans tous les domaines. Il faut bien connaître son domaine d'expertise, quel qu'il soit, et plutôt aller vers ça, parce que là, on a confiance en soi.
Qu'est-ce qu'on a tendance à trop oublier dans la vie ?
Le temps. On a oublié que le temps passe. On a oublié que le temps passe vite. Et alors, oui, j'ai 65 ans, je te remercie de l'avoir souligné. j'ai 65 ans, que le temps passe peut-être un peu plus vite pour moi, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un compte à rebours aujourd'hui. J'ai toujours vécu ça comme ça, en me disant que jusqu'à 50 ans, j'étais sur une pente ascendante et qu'à partir de 50, dans une pente descendante, parce que j'espère vivre jusqu'à 100 ans comme ma grand-mère, mon père est en pleine forme aujourd'hui, mais t'as un compte à rebours et je crois qu'il faut... Je pense que le Covid a été salvateur pour ça, parce qu'il nous a fait prendre conscience de la fragilité de la vie, et il nous a fait prendre conscience, parce qu'on a pris un peu de temps pour soi, un temps imposé, mais on l'a pris quand même, finalement, c'était vachement agréable, pas de rester chez soi et d'être en confinement, mais de prendre un peu de temps pour se poser. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'introspection, moi la raison de ce livre, c'est ça. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre conscience du temps qui passe et arrêter de courir tout le temps.
Donc prendre le temps et mettre des vides dans son agenda, c'est une façon aussi de retenir ce même temps.
Oui, et pourtant, je te dis ça alors que
tu es boulimique du fer.
Alors que je suis boulimique du fer et que le trou dans mon agenda me panique. C'est-à-dire que moi, je peux avoir... Là, j'ai un agenda plutôt calme en ce moment, avec des trous. Au début, je me disais, mais je vais m'ennuyer.
Et tu fais quoi pendant ces trous?
Je les remplis.
C'est ça qui est paradoxal, prendre le temps, c'est décupler le temps, mais on ne le prend pas, on le remplit.
Je le remplis qu'avec des choses qui me font plaisir. C'est-à-dire que quand tu fais de la télé, de la radio, machin, tout ça, t'as des exercices imposés qui font que t'as pas beaucoup de temps pour toi. Là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps, et donc, je me fais plaisir. Je peux traverser Paris pour aller me faire plaisir en achetant de la bouffe pour le soir pour ma famille. Je fais beaucoup de sport, donc je peux prendre du temps pour le sport. J'ai envie de faire les courses pour m'acheter un pull, je peux le faire. Enfin, je veux dire, j'ai aujourd'hui, quand j'ai des trous comme ça dans la journée, et surtout que quand il fait pas trop moche, je prends mon vélo dans Paris, je peux aller bouffer avec des copains à l'autre bout de Paris tranquille. Je vis calmement. Je suis beaucoup plus calme aujourd'hui.
Oui.
Parce que j'ai des trous dans mon agenda et que j'arrête de courir, même si j'ai plusieurs activités dans la journée.
Et donc ça, cette sagesse, cette forme de sagesse, c'est le temps qui te l'a appris. C'est la vie, les expériences.
C'est la vieillesse, tu sais. C'est la vieillesse.
J'osais pas le dire.
Je suis devenu... Non. C'est... Oui, il y a ça. Et puis, tu sais, il y a Voltaire qui a dit un truc très, très bien. Il a dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. »
Voilà. Et j'adore
donc,
cette phrase.
Voilà, cette phrase, elle est formidable et c'est ça, c'est moi. Et puis il y a Alain, le philosophe, qui a dit aussi le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et donc j'ai décidé d'avoir la volonté d'être optimiste et d'être heureux pour que ce soit bon pour ma santé. Mmh. Donc la vie pour moi, c'est que bonheur.
C'est beau. En un conseil, qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent? De prendre le temps? De ne pas courir
non,
trop vite?
Non, le conseil, c'est d'aller au bout de ses envies. Ouais. C'est quelque chose qui est enfoncer les portes ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui disent « va au bout de tes rêves, va ceci, va cela ». Allez au bout de ce que vous avez envie de faire. Alors, oui, tout le monde ne réussira pas. Mais vous serez bien dans votre peau et dans votre tête parce que vous l'aurez essayé. Après, je sais pas, vous avez envie de monter une entreprise, faites-le. Ça marche pas, peut-être que vous travaillerez pour quelqu'un d'autre après, mais vous l'aurez fait. Et toute votre vie, vous vous direz pas, mais pourquoi je l'ai pas fait? Voilà. Moi, je pense que quand on est jeune, il faut jamais se dire, mais pourquoi, espèce de con, tu l'as pas fait?
On va terminer là-dessus. C'est très beau. Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie.
Merci pour tous ces partages. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.